Une chose est certaine, c'est que la sécession n'aura pas lieu parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de sécession entre le parti d'expression anglaise et le reste du Cameroun. Cependant, il faut reconnaître qu'il y a quand même un vrai problème et que quand il y a un problème de ce type-là, il faut se rappeler ce qui s'est passé dans l'histoire. Les Camerounais de la partie qui s'exprime en anglais ont rejoint le reste du Cameroun à la suite d'un référendum et surtout par un accord politique qui avait été signé entre les dirigeants des deux blocs. Si aujourd'hui les anglophones, comme on les appelle, se sentent mal à l'aise et veulent rediscuter, c'est légitime qu'ils s'adressent à leur chef d'État et que celui-ci les écoute. Or, le président Biya se trouve à l'étranger et malgré l'intensité que prend la crise, il n'a pas daigné apporter une réponse. Son gouvernement, pareil. Et ce qui me désole le plus, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50 ans après les indépendances, les éléments de clivage dans la population camerounaise sont encore des greffes issues de la colonisation. C'est ça le plus difficile.
Oui, mais est-ce que vous ne craignez pas que cette crise dans cette partie anglophone de votre pays peut-être ne puisse ébranler ou bien faire chuter le régime Biya?
C'est un régime qui devrait chuter depuis longtemps, le régime Biya. S'il avait obtenu des résultats probants, l'on n'en serait pas là. Ce que les anglophones réclament, c'est ce que beaucoup de francophones ne réclament pas, parce que quand on met un habillage linguistique sur la question, effectivement, que ça prend une autre ampleur.
Mais les problèmes sont les mêmes, non? Les problèmes des Camerounais sont les mêmes.
Les problèmes sont exactement les mêmes. C'est pour cela que je trouve surprenant qu'on mette une connotation linguistique à ces problèmes-là. Que vous soyez à Ebolova, que vous soyez à Douala ou dans le grand nord du Cameroun qui est sous le feu aujourd'hui de Boko Haram ou dans la partie anglophone, du Cameroun, les problèmes sont exactement les mêmes en termes de santé, d'éducation, de bien-être, de communication et de télécommunication, voire même de décentralisation. Donc tout cela ne peut pas justifier une sécession, mais ça indique l'état aujourd'hui à la fois de confiance et surtout de bien-être.
Oui, et si jamais on n'obtient pas, donc les sécessionnistes n'obtiennent pas la partition du pays, est-ce qu'ils peuvent tout au moins peut-être obtenir la fédération?
Ils peuvent pousser le gouvernement à aller véritablement plus loin dans le projet de décentralisation qui a justifié la nouvelle constitution. Au Cameroun, il y a une dizaine d'années maintenant, il faudra que cette constitution soit appliquée à la fois dans l'esprit et dans la lettre. Et si cela n'est pas fait, je pense qu'il ne serait pas illégitime pour les Camerounais d'en appeler à la responsabilité de leurs dirigeants pour savoir pourquoi cela ne se fait pas.
Oui, on a comme l'impression que les leaders des mouvements sécessionnistes ne se font pas très bien voir. Est-ce qu'il y a un leader bien connu qui puisse faire le poids?
Sur la base de la sécession, il est difficile de faire l'unanimité. Moi, je pense que où que l'on soit sur cette idée-là, ça ne marche pas. On voit aujourd'hui la crise entre les Catalans et le reste de l'Espagne. En Afrique, on a parlé de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Je pense que ce serait une aventure assez dangereuse tout de même. Mais reconnaissons que il y a un leader qui aujourd'hui est à la tête de ces anglophones et qui se balade avec le drapeau de l'Ambazonie tant au Cameroun qu'à l'étranger, mais surtout à l'étranger. Mais il est marginal, il reste marginal parce que si je lis les pancartes qui sont brandies lors des manifestations, il y a quelque chose de très important qui est dit par ces pancartes-là, c'est qu'ils demandent que Biya s'en aille. Quand on n'en a plus rien à faire du Cameroun, je pense qu'on n'en a rien à faire surtout, c'est-à-dire sur l'ensemble de la donne. Mais là, il demande le départ du dirigeant actuel. Donc ça signifie que le malaise n'est peut-être pas par rapport aux Camerounais, mais par rapport à la manière dont le gouvernement camerounais gère la question anglophone, si on peut la considérer comme une question à part entière.
Oui, officiellement, Nedjone Frondi, le leader du SDF, qui est issu de cette zone anglophone, ne soutient pas le projet ou bien les revendications sécessionnistes. Est-ce que vous le croyez sur parole?
J'ai beaucoup de mal à croire John Frondi parce que c'est quand même un dirigeant politique qui a été très en avant dans la lutte pour les droits des Camerounais, mais qui n'a jamais voulu se considérer comme un Camerounais à part entière jusqu'aujourd'hui, depuis les années 90, prenons, ça doit faire quoi? Plus de 30 ans aujourd'hui. Il n'a pas daigné apprendre à s'exprimer en français avec les autres Camerounais. Et quand il les reçoit, il fait la plupart du temps ce distinguo très net entre les francophones et les anglophones. Dans son esprit, peut-être, les choses sont claires, mais dans la lecture que l'on a de ses prises de position et de son comportement vis-à-vis des Camerounais dans leur ensemble, c'est pas du tout clair.
Mais il prône plutôt le fédéralisme, c'est quand même un léger mieux, non?
Non, on ne peut pas revenir au fédéralisme, c'est impossible. Autant j'estime que sur la base d'un contrat qui a été établi entre les dirigeants politiques, le Cameroun est devenu un État fédéral en 1961, autant il est anormal qu'en 72, on ait évolué vers la République fédérale, la République unie, pardon, et puis vers la République tout court, sans reconsulter les populations qui s'était prononcé par référendum et avec lesquels on avait signé un accord politique. Mais revenir en arrière aujourd'hui serait insensé. On parle de décentralisation, c'est pas très différent. Les pouvoirs sont peut-être moins concentrés au niveau du pouvoir central avec la décentralisation, mais c'est ça le moindre mal, c'est pas la fédération.
Donc, à la longue, vous estimez que le mouvement va certainement diminuer d'intensité.
Je pense qu'il ne diminuera d'intensité que si l'on y prête attention et que l'on y prête une attention bienveillante, pas une attention avec une réponse musclée comme c'est le cas aujourd'hui en coupant Internet, en obligeant les gens à rester chez eux par le couvre-feu et en narguant surtout les personnes qui manifestent parce que ce ne sont que des anglophones. Le Cameroun est un pays uni, heureusement pour nous. Mais c'est pas le fait du prince, c'est quand même la volonté d'abord des populations et c'est surtout l'histoire d'un accord politique qui a été signé. Quand on n'arrive pas à respecter et à comprendre cela, je pense que le problème est peut-être dans le camp de ceux qui auraient dû régler ce problème avant qu'il ne prenne l'ampleur que l'on lui connaît aujourd'hui.